RFI, les 19h à Porto Rico, 7h à Kuala Lumpur et 1h du matin ici à Issy-les-Moulineaux. Et on vous retrouve Antoine Galen pour le journal. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous. 44 jours que l'Ukraine a accepté un cessez-le-feu, 44 jours que la Russie continue de tuer notre peuple. Les mots de Volodymyr Zelensky au lendemain de l'attaque russe qui a fait 12 morts et plus de 90 blessés à Kiev. Dans ce journal également, la sortie des énergies fossiles n'est pas à l'ordre du jour pour les États-Unis. Lors du sommet international sur la sécurité énergétique, Washington a rappelé son attachement à ces énergies très polluantes. Et puis un livre qui apportera peut-être des réponses. Le silence de Betaram est sorti ce jeudi dans les librairies. Il regroupe les témoignages chocs d'anciens élèves de l'établissement catholique de Notre-Dame de Betaram, victimes de violences physiques et sexuelles. L'ouvrage contient notamment le témoignage d'une des filles du Premier ministre François Bayrou. Vous l'entendrez. 12 morts et plus de 90 blessés à Kiev dans la nuit de mercredi à jeudi. La dernière attaque russe contre la capitale ukrainienne remontait à début avril. En conséquence, Volodymyr Zelensky rentre d'Afrique du Sud en urgence. Il affirme qu'un missile nord-coréen a été utilisé dans cette attaque. Notre correspondante Cerise Sudry-Ledu s'est rendue dans le quartier de Sviatashvin. C'est celui qui a été le plus touché. Ici, 8 personnes sont mortes.
Olena est en pyjama. Un satin blanc taché de sang par endroits.
Okay. Ce n'est rien, je suis heureuse d'être en vie.
Elle se tient dans l'arrière-cour de l'immeuble où elle vivait. À certains endroits, la façade percée de trous béants laisse apparaître l'intérieur des appartements. Avec son mari, ils habitaient au 4e étage. Réveillés par l'explosion, ils patientent depuis dans leur voiture, attendant qu'une amie leur apporte des vêtements propres.
Je ne sais pas ce qu'il va se passer avec mon chat. Il est à l'intérieur et on attend les instructions des soldats.
Dans ce quartier résidentiel de l'Est de Kiev, l'immeuble devant nous a été presque entièrement détruit, mais les dégâts s'étendent sur plusieurs pâtés de maisons, vitres pulvérisées, toitures éventrées ou intérieurs dévastés. Tatiana, mère de 3 enfants, fait la queue pour obtenir un peu de plastique, de quoi couvrir les fenêtres arrachées.
Le choc était énorme, tout a été arraché. Les fenêtres, les portes, la porte d'entrée, celle de l'immeuble. Et on a juste couru dans l'abri, cet abri-là. Et on y est resté presque jusqu'à la fin de l'alerte. Et mon mari, lui, a aidé tout de suite à déblayer les gravats parce qu'il y avait des gens vivants en dessous. Ils ont sorti un homme mort et une femme encore vivante.
Un peu partout, des policiers recueillent les dépositions de ses habitants sur les formulaires, un titre... Réfugiés. Cerise Sudry-Ledu, Kiev, RFI.
Et ces frappes interviennent pendant que Washington tente de convaincre Moscou et Kiev pour un accord. Le président ukrainien ne veut pas céder la Crimée à la Russie comme le souhaite Washington. De son côté, Donald Trump assure que les États-Unis mettent une forte pression sur la Russie pour mettre fin à la guerre. La balle est clairement dans le camp de la Russie. Déclaration du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, ce jeudi. Israël lancera une offensive plus vaste à Gaza si les otages ne sont pas libérés. Mise en garde du chef de l'état-major de l'armée israélienne. Son porte-parole a de son côté émis des ordres d'évacuation pour les habitants dans le nord-est de l'enclave. Ce jeudi, au moins 55 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza par des frappes israéliennes. Les États-Unis ne veulent pas abandonner les énergies fossiles. Lors du sommet international sur la sécurité énergétique qui s'achève ce vendredi à Londres, Washington a rappelé son attachement à ces énergies très polluantes. La sortie du pétrole ne figure même plus parmi les objectifs urgents de l'Agence internationale de l'énergie. On écoute Tommy Joyce, le secrétaire adjoint par intérim à l'énergie.
Sous notre administration, nous allons libérer toutes sortes de productions d'énergie. Il y aura plus et pas moins de forages sur le sol américain. Ce n'est pas tout. Grâce à nos laboratoires nationaux, nous allons tout faire pour commercialiser d'autres types d'énergie, y compris l'énergie nucléaire. Les jours de surrégulation sont finis. Nous n'allons pas sacrifier notre économie ni notre sécurité pour des accords mondiaux, pour un futur soi-disant neutre en émissions carbone. Et nous n'allons encourager aucun autre pays à le faire. C'est la pire politique de gestion de risque possible. Elle se concentre sur un seul risque, ignore tous les autres et en crée de nouveaux, comme le manque de sécurité énergétique qui peut et va toucher des vies humaines.
Tommy Joyce, le secrétaire adjoint par intérim à l'énergie, des propos recueillis par Agnieszka Kumor. Selon les ONG, le sommet de Londres ne sert qu'à encourager les entreprises à produire plus d'énergie fossile et à en retarder la sortie de ces énergies polluantes. En France, le suspect qui a tué une lycéenne et blessé 3 autres a été hospitalisé après un examen psychiatrique. Le drame s'est déroulé ce jeudi vers 12h30 à Nantes, dans l'ouest de la France. Une attaque au couteau dans le collège lycée privé Notre-Dame de Toutes Aides. Quelques heures avant, le suspect avait envoyé à ses camarades un email de 13 pages où il dénonçait la mondialisation et l'écocide globalisé. Le Premier ministre François Bayrou demande une intensification des contrôles mis en place aux abords et au sein des établissements scolaires. Et sous 4 semaines, des propositions concrètes autour des violences commises par des mineurs avec des armes blanches. En France, toujours, le silence de Bétarame est sorti aujourd'hui dans les librairies. Un livre qui regroupe les témoignages de plusieurs dizaines d'anciens élèves qui ont subi des violences physiques et sexuelles à Notre-Dame de Bétarame, un établissement du sud-ouest de la France, et ce pendant des décennies. Le Premier ministre François Bayrou doit être entendu le 14 mai par la commission d'enquête parlementaire pour savoir s'il avait ou non connaissance de ces faits. Sa fille Hélène Perland a affirmé qu'elle avait été victime. Elle a pris la parole ce jeudi au micro de France Inter aux côtés d'Alain Esquer, le porte-parole du collectif des victimes de Notre-Dame de Bétarame, Sophie Volatier-Godard.
Je suis vraiment très très fier de toutes ces victimes aujourd'hui qui parlent à visage découvert et qui n'ont plus honte, parce que la honte, elle doit changer de camp.
Contrairement à ce qu'Alain Esquer a longtemps pensé, aucun enfant n'était épargné à Notre-Dame de Bétarame. Pas même les enfants issus de milieux favorisés.
Vous avez aussi dans le livre ce témoignage fou de Loïc, qui lui aussi fils de notable, et qui va se faire attoucher longuement pendant plus d'un an et demi, alors que moi-même je le croyais justement intouchable.
Une affirmation très largement soutenue par Hélène Perland.
100% des enfants de députés à Bétarame ont été ou tabassés ou violés, non pas parlés.
La fille du Premier ministre a aussi tenu à revenir sur une idée reçue.
J'entendais tellement de gens écrasés par l'idée que les fameux pseudo-notables auraient consenti à ce qu'ils soient battus ou violés sous prétexte, il y a eu une phrase terrible, que leurs enfants seraient d'une autre texture que les autres. Cette phrase, elle m'est restée en travers de la gorge.
Alain Esquer a aussi ajouté vouloir faire de son livre un outil pour lutter contre les violences faites aux enfants.
Emmanuel Macron termine sa tournée dans l'océan Indien. Il était en visite à Madagascar mercredi et jeudi. Le président français a annoncé la création d'une commission mixte d'historiens. L'objectif est de travailler sur les atrocités commises à l'époque par l'armée française lors de l'insurrection de 1947. Des dizaines de milliers de Malgaches avaient été tués. Ils ont perdu des sommes colossales. Au moins 5000 fans du groupe Oasis ont été escroqués. Ils pensaient voir les frères Gallagher qui avaient annoncé des concerts partout au Royaume-Uni, 15 ans après leur séparation. Mais des escrocs en ont profité en vendant des faux billets aux fans. Sophie Torlotin.
2 millions de livres, soit 2 300 000 euros, c'est le montant estimé par la banque Lloyds des escroqueries dont ont été victimes quelques 5 000 fans d'Oasis lors de la vente des billets de la tournée exceptionnelle. Fin août dernier, lors de l'annonce de reformation du groupe, tous les billets pour les concerts de Cardiff, Manchester, Londres, Édimbourg et Dublin se sont envolés en quelques heures. Les acheteurs, confrontés à des pannes sur des plateformes saturées ou à des tarifs prohibitifs, n'ont pas manqué d'exprimer leur colère. Beaucoup se sont alors rabattus sur des annonces, finalement fallacieuses, mises en ligne sur les réseaux sociaux, principalement Facebook. Outre ces arnaques, l'autorité britannique de la concurrence s'intéresse à la pratique de la tarification dynamique, qui consiste à ajuster en temps réel le prix de vente à la demande des consommateurs. Certains billets pour Oasis, affichés initialement à environ 150 livres, ont finalement été proposés à plus de 350 livres.
Bientôt 1h10 à Paris, 23h10 en temps universel. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.